Bonjour à vous tous. Je ne puis pas dire que j'ai la certitude que l'information soit correcte, mais j'ai appris que c'est notre équipe de louanges qui va chanter et jouer à l'entrée du ciel quand on arrivera là-haut. Alors si c'est vrai, je me réjouis. Si ce n'est pas vrai, alors on va tous chanter et nous réjouir dans le Seigneur. J'ai un peu honte de moi-même parce que l'autre jour, on a eu le dimanche matin, on partageait notre témoignage. Et j'avais quelque chose à dire et ils n'ont aussi pas à me mettre sur mes pieds. On est quelquefois timide. Mais j'aimerais vous dire ce que j'avais à cœur de dire. En arrivant, je ne vous connaissais pas. C'est normal. Vous ne connaissez pas du tout, presque pas à part John et une ou deux personnes. On est arrivé là et puis on a trouvé un petit peu l'ambiance un peu froide, est-ce que j'ose le dire. C'était pas très chaud, c'était pas très chaleureux, ça nous a fait un petit peu mal. Et puis j'ai eu mon accident, ma chute, et subitement tout a changé à mon égard. La relation d'amour était tout autre. À droite et à gauche, il y en avait qui me disaient, mais donne-moi, je te donne mon bras, ou je te prends ta Bible, ou je t'ouvre la porte et je te montre le chemin. C'est devenu formidable. Alors, je vous recommande de faire une chute similaire et de voir les conséquences parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'aimerais vous remercier de cela, d'être disponible dans nos services quand il y a un petit frère qui a des problèmes pratiques de ce genre. C'était formidable. Je voulais aussi vous donner une nouvelle. Dimanche dernier, on allait partager le fait qu'il y a le stand biblique sur la rue de Rive à Genève. Et vous vous souvenez que c'était interdit. La permission était retirée. On n'avait pas le droit d'y être. Et vous et d'autres, vous avez prié. Et le tribunal était saisi de cela. Et le tribunal a renversé la décision de la ville de Genève, disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire cela et qu'on avait la liberté, on était dans un pays libre, quand même la ville d'un homme qui s'appelle Jean Calvin, on avait la liberté d'avoir un stand biblique. Et nous y sommes allés jeudi cette semaine pendant un tout petit moment avec notre frère Raymond. Et ce n'est pas à cause de notre présence, on a appris de bonnes nouvelles. Ils ont dit, on n'a jamais donné autant de portions de l'écriture que cette année. Jamais autant que cette année. C'est demandé. C'était formidable. Et puis, vous n'avez pas d'idée, ils nous ont dit, il y a eu deux personnes qui se sont converties. On n'avait pas d'idée non plus. Je trouve ça formidable. Alors, si vous voulez être du coup, il y a l'annonce qui est toujours au tableau. Et jeudi et samedi de cette semaine, samedi, on est tous un petit peu pris, nous aussi avec vous, mais moi, je vais vous quitter samedi pendant la nuit, peut-être le dimanche matin très tôt pour rejoindre le sud. Et on sera loin pendant 3 mois. Mais je penserai toujours à ceux qui ont été tellement pleins d'amour, de compassion pour un frère qui en avait besoin. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'allais dire qu'il y en a beaucoup comme moi qui tombent, mais je ne vais pas dire cela. Mais que vous soyez bénis pour cela. J'avais à cœur de parler ce matin de l'amour. L'amour du Seigneur et notre amour pour le Seigneur. Et j'aimerais lire juste 2 petits passages de l'Écriture avec vous. Dans le livre de l'Exode, ça doit être au tableau, je crois, chapitre 21 du livre de l'Exode. Et nous lirons les versets 5 et 6. 5 et 6. C'est un ordre, une proposition du Seigneur pour le peuple d'Israël, mais je crois que c'est aussi un tableau. Si vous suivez cette lecture comme moi, il y a un tableau formidable qui parle là. Si l'esclave, au verset 5, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Si j'avais un texte ce matin, ce sera en plein milieu là. J'aime mon maître. Je ne veux pas sortir libre. Je lis juste l'autre petite référence qui est sur vos au tableau, je pense, dans 2 Jean, si je ne me trompe. J'arrive. Voilà, dans 2 Jean, au verset 6. Au verset 6. Et l'amour, c'est quoi? Si on passait un petit morceau de papier ce matin avec un stylo, on vous disait, mais l'amour, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour du chrétien, c'est quoi? Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements ou d'obéir au Seigneur. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. J'aime mon maître et je ne veux pas sortir libre. Alors mon objectif dans ce partage ce matin, c'est de voir comment le relationnel, l'amour relationnel avec Dieu est le moteur de notre vie chrétienne. C'est le fait que le Seigneur nous aime et qu'en retour que je l'aime, c'est ça qui fait marcher le moteur, c'est ça qui fait marcher la vie chrétienne. Le Seigneur nous demande de recevoir cet amour car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Tellement souvent nous voyons ça, Dieu prouve son amour envers nous, c'est là tellement souvent. Et je cite un autre verset d'un Jean. « Quant à Dieu, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Dieu nous a aimés le premier. C'est fantastique de penser que le Dieu de la création aime des gens comme vous et moi. Trouvez pas ça formidable? Hier matin, je me suis promené un peu sur notre balcon et je regardais vers le Jura. J'ai dit à Hélène, viens chérie, je sais pas pourquoi on s'en va. Parce que c'était tellement beau de voir la neige sur les montagnes, de voir les derniers arbres là, de voir le soleil. C'est merveilleux cela. Et c'est ce Dieu-là qui veut nous aimer, qui veut dire à chacun d'entre nous, je veux te prendre entre mes bras les problèmes que tu as, les déceptions que tu as. Mon fils est mort pour tout cela. Je suis le Dieu fidèle. Et puis Jésus dit qu'il y a un commandement. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur. Vous avez un cœur? C'est pas uniquement ce truc qui s'arrête quelque part et ça fait un AVC et tout le reste. Le cœur, ce sont nos sentiments, notre manière de réagir, notre relation, notre attitude. Que tout ton cœur soit pour aimer le Seigneur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est ça qui distingue le message chrétien de tout autre message. C'est ça qui doit distinguer nos églises évangéliques de toute autre chose. Que les gens, quand ils rentrent ici, qui disent, mais combien ils s'aiment? Combien ils s'aiment? Et qu'en même temps, on aime ces gens qu'on ne connaissait pas. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Un jour, il y a un petit gars qui a posé la question à son père. Mais papa, c'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour? Oui, mon chéri, Dieu, c'est le Dieu d'amour. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant qu'on ne soit là? Qu'est-ce qu'il a fait avant qu'on ne soit là, s'il est un Dieu d'amour? Et le père a répondu, mais tu as bien compris, c'est justement pour cela qu'il nous a créés, parce qu'il avait envie de quelqu'un pour l'aimer. Le Seigneur nous a préparés pour qu'on puisse être aimés par lui. C'est ça qui est sorti tout à l'heure de ce repas que nous avons pris ensemble. C'est une ouverture, le pain qui représentait le corps de Jésus, mort pour nous, le sang versé pour nettoyer notre péché. Tout cela, c'est pour que nous rentrions dans une relation vivante avec Dieu, une relation de père et fils. Tout à l'heure, il y a mon petit-fils qui va venir pour célébrer son anniversaire à la maison. Et j'ai dit à Hélène, je suis heureux de voir les enfants qui vont arriver. Il m'a dit, mais tes enfants à toi aussi, hein? J'ai dit, mais bien entendu. Mais un grand-père a tellement d'amour pour ses petits-fils et ses petits-enfants. Et Dieu, le Père, a un amour pour toi. Bien-aimé, j'aimerais que ton cœur le voie ce matin, le sente. Tu es un aimé, tu es une personne aimée par Dieu. Il veut mettre spirituellement ses bras autour de toi et dire, je t'aime, je t'ai choisi, toi, parce que je t'aime. Et cet amour, donc, a besoin d'une relation. L'amour ne peut pas exister sans relation. C'est pour ça que les hommes et les femmes se marient, parce qu'il y a une relation qui se crée. C'est pour cela que Dieu nous donne d'avoir des enfants et des petits-enfants, et peut-être pour certains des arrière-petits-enfants. Je crois que je n'y arriverai jamais, mais je fais de mon mieux en attendant. C'est formidable cette relation, une relation que Dieu a créée pour nous, pour que ça soit vrai dans notre vie. Mais cette attitude de relation d'amour, ça implique une servitude en même temps. On ne peut pas aimer sans servir. Il y a un petit journal qui porte ce titre. Un journal qu'un de mes amis médecins a lancé il y a quelques années, « Aimer et servir ». Aimer et servir. Si on aime, on sert. Si on aime, on cherche les moyens de pouvoir aimer celui ou celle qu'on aime. Ma femme m'interdit de parler d'elle derrière son dos, alors je ne vais pas parler d'elle. Mais je peux penser à toutes les occasions, je dis, « Seigneur, donne-moi moyen de témoigner ton amour à mon épouse ». On est là, bien-aimé, pour recevoir cet amour, mais pour travailler pour cet amour. Ça compte, ça coûte et ça nous prend. Alors, c'est extraordinaire, cette histoire de l'esclave. Cet homme qui était libéré après 6 ans de travail, 6 ans d'esclavage, il sort et il dit, « Je ne veux pas sortir, j'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre. » Si vous ne pensez à rien d'autre après cette matinée, en dehors de toute la joie que notre sœur nous a apportée, notre sœur Lydia, j'aimerais que vous pensiez à cette phrase. J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre. Bien aimé, on n'est pas libre comme chrétien. Vous allez dire, mais la Bible dit le contraire. La Bible dit de rester dans la liberté avec laquelle Christ vous a affranchi. Bien entendu, c'est tout à fait biblique. Mais je me souviens quand même des paroles de saint Augustin, un Tunisien, entre parenthèses, disait « Tu aimes et tu fais ce que tu veux ». Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et nous, on est aimés par le Seigneur pour qu'on aime en retour, pour qu'on témoigne de notre amour d'une manière différente dans notre vie, que nos vies soient changées constamment, constamment, constamment. Et puis, il est dit dans ce passage que pour témoigner de la chose, le patron devait amener son esclave à un mur et percer un trou dans son oreille. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais il y a pas mal de sœurs qui sont expertes dans ce domaine. Ça doit être terriblement dur de percer une oreille comme cela. Ça devait coûter. C'est un rappel de ce que ça devait coûter au Seigneur quand il s'est donné pour nous. Quand il s'est donné pour nous. Ça coûte notre salut, bien-aimé. Ça n'est pas quelque chose de rigolade, de passager. Ça coûte notre salut. Et le fait que l'oreille a été percée, c'est un double sens, je crois. Le deuxième sens, c'est pour nous rappeler ce que c'est qu'une oreille. Vous avez 2 oreilles, vous? Et qu'est-ce que vous en faites avec? Vous écoutez, je crois, non? Et c'est pour rappeler, mais nous avons l'oreille pour écouter les paroles du Seigneur. Nous avons des oreilles pour savoir ce que Dieu veut nous dire. Bien-aimé, est-ce que tu entends ce que le Seigneur est en train de te dire en ce moment? Ce qu'il t'a dit par le moment de joie et de chant, ce qu'il te dit par les lectures, ce qu'il t'a dit par le moment ensemble, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Le Seigneur n'a jamais été jamais au bout, n'a jamais terminé de ce qu'il veut nous dire. Et cet homme qui crie, « Je veux pas sortir, j'aime mon maître. Oh, j'aime mon maître et je veux pas sortir libre. » Oh, que vous puissiez penser à ce verset pendant le repas de midi. Qu'est-ce qu'il a dit, Brian? La parole dit, « J'aime mon maître et je ne veux pas sortir libre. J'aime Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à te suivre. » Oui, il y a des tas de choses dans ma vie où il doit me parler. Tu es vraiment libre pour me servir? Tu es vraiment prêt à faire fi de cela? Tu es vraiment prêt à prendre position là, dans ta vie, ou pas? Et Jésus dit, « Celui qui veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Cette oreille percée, le sang qui devait couler, la douleur, ça devait rappeler tout ce que Jésus a souffert pour que nous soyons, nous, libres, que nous appartenons à Jésus-Christ. Josué nous rappelle dans le chapitre 24 que Dieu a fait tellement de promesses, et pas une seule de ces promesses que l'Éternel Dieu vous a faites n'est restée sans effet, elles se sont toutes entièrement réalisées. En fin d'année, il est bon de faire le compte des choses. Hein. On chante quelquefois ce petit chant, « Comptez les bienfaits de Dieu, combien le nombre en est grand. » Quels sont les bienfaits du Seigneur de cette année? Quelles sont toutes les bénédictions qu'il nous a données? Quelles sont toutes les promesses qui se sont réalisées? Il y en a tellement, tellement. Si je pouvais faire une liste de toutes les fois où le Seigneur a répondu, souvent pour les clés qui étaient perdues, pour un papier égaré, pour ceci ou cela, pour une porte fermée, le Seigneur a répondu. Alors, bien-aimés, n'oublions pas cela, et si toutes ces promesses ont été entièrement réalisées, alors Josué dit, si vous ne vivez pas selon ces promesses, attention, le pays pourrait vous être enlevé. Je sais que c'était adressé aux Israélites, mais ça peut nous être adressé également. Si tu n'es pas prêt, si moi je suis pas prêt à suivre le Seigneur dans tous les domaines de ces promesses qui ont été accomplies, il m'a béni, pourquoi? Il m'a donné une réponse à cette promesse, pourquoi? Pourquoi? Il m'a donné des frères et sœurs, pourquoi? Bon, je commence à apprendre pourquoi, avec mon petit problème de jambe. Des tas de réponses. Nous avons été bénis, soyons à notre tour une bénédiction. Mais il y a des gens, et je le dis exprès parce que je crois que c'est important de le souligner, il y a des gens qui se convertissent au christianisme. Est-ce que vous êtes converti au christianisme? C'est un style de vie. Ils fréquentent Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas mourir avec Jésus-Christ. Quand nous parlons de la conversion, nous parlons de quoi? De la nouvelle naissance. Si vous voulez être logique, et on est toujours très logique en France, chez nous, hein, si vous voulez être logique, si on veut être né de nouveau, il faudrait mourir avant. Pas vrai? Ça, c'est pas facile, ça. Hein? C'est pas nous de dire « je veux mourir », on n'est pas là pour être maso. Mais si un homme est né de nouveau, il rentrera dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, examinons-nous, posons-nous la question. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que j'ai dit « stop là » à mon ancienne vie? Stop là! Oh non, Seigneur, je veux bien y réfléchir. Demain, on aura un petit moment de libre. C'est vrai? Mon fils m'a acheté un vélo d'appartement. Il m'a dit « Papa, 3 fois par jour, hein, je compte sur toi. » Alors, quand j'ai fait 1 fois par jour, je suis content de moi-même. Maintenant, j'essaie de faire 2 fois et je vise 3 fois. Mais quand on veut tenir ses promesses, c'est pas toujours facile. Hein. Mais si on est né de nouveau, ça veut dire que l'ancienne vie est terminée. Il y a un début d'une nouvelle vie. Si Dieu est venu en Jésus-Christ, c'est Dieu avec nous, Emmanuel, s'il est venu ici. C'est parce qu'il voulait que nous ayons une nouvelle vie. Notre soeur a demandé ce que Noël voulait dire pour les uns et les autres. J'ai trouvé que les enfants étaient très bien, c'était très bien maîtrisé les uns et les autres. À mes oreilles, personne n'a dit « Noël, c'est pour les cadeaux ». Est-ce que quelqu'un dit ça? Je n'ai pas entendu ce mot-là. Hein. Mais Noël, c'est pour les cadeaux, c'est vrai. Mais c'est pour le gros, plus grand cadeau. On est heureux d'être ensemble à Noël. Nous, on va être heureux de rejoindre une partie de la famille à Nice à Noël. Heureux d'être ensemble et de dire au Seigneur, merci, c'est toi qui es à la source de tout cela. Tu as dit tout à l'heure qu'on devait imaginer de commencer l'entrée du ciel. Oh, quelqu'un a dit cela. J'ai subitement pensé, j'ai vu les portes du ciel s'ouvrir et le Père là-haut en train de nous déverser les promesses, les bénédictions, les joies, la présence de Jésus-Christ, des tas de choses qui tombent en même temps sur une table qu'il a prête avec des cadeaux sur la table. Mais c'est ça, Noël. Et nous sommes là pour dire merci, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir permis que je rencontre Jésus. Merci parce que je sais où je vais. J'ai un objectif dans ma vie. tout est différent. Mais j'aimerais dire qu'on devient un vrai serviteur quand on aime. Quand on aime vraiment le Seigneur, on devient un véritable serviteur. Mais pour devenir un vrai serviteur, il faut vivre humblement. Les serviteurs de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui sont humbles. Jésus-Christ nous a confié sa prière personnelle et intime. Il a dit que c'était la prière qu'il offrait au Père. Pas vrai? Vous vous souvenez de cela? Et en plein milieu de cette prière, que nous appelons quelquefois la prière dominicale, c'est dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y en a qui disent au Seigneur le vice-versa, hein, opposé. Ils veulent trouver tout ce qu'ils ont sur la terre dans le ciel. Je puis vous avertir maintenant, vous ne le trouverez pas. Ça ne s'y trouve pas. Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la preuve qu'on aime le Seigneur. C'est ça qui montre qu'il y a une différence dans notre vie. Le Seigneur a dit pour que ses disciples comprennent ça et le reçoivent. Non pas comme deux de ses disciples qui lui ont dit, Seigneur, quand tu rentreras dans ton royaume, trouve deux petites places sympathiques tout près de toi pour qu'on soit là, nous les premiers. Ce n'était pas une attitude d'humilité, cela, une attitude de service. J'ose vous dire que les seules places qui sont réservées d'avance, ce sont les places sur une croix. Vous avez suivi? Là, avant la fin de notre vie ici-bas, c'est sûr que nous allons passer par des croix, des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments où on se demande s'il y a un bout du tunnel. Mais le Seigneur dit, je t'aime, je t'ai appelé parce que je t'aime. T'es choisi afin que tu ailles et que tu portes du fruit. Mais c'est cela un vrai serviteur. Et Jésus, quelquefois on le cite quand on prend la coupe, Jésus a prié cette prière terrible. Père, que cette coupe de souffrance, de crucifixion, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas moi, mais que ta volonté soit faite. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de passer par un moment difficile de ce genre, une coupe difficile à avaler, une croix qui fait mal, une situation décevante. Et tu dis, Seigneur, j'en peux plus. Et le Seigneur te dit, jette-toi entre mes bras. J'ai subi tout cela pour toi, tout cela pour toi, pour que la volonté du Père soit faite dans ta vie. Alors, il y a un rappel de Paul là. Paul dit, veille sur toi-même, afin que tu ne sois pas tenté. Comme ces deux disciples qui étaient tentés par le bien, ils pensaient pouvoir avoir des places royales dans le palais du Seigneur là-haut. Et le Seigneur avait un chemin difficile ici-bas. 2016, on va tous dire bonne année. Mais comment est-ce que vous allez dire bonne année? Avec le Seigneur? Avec la droite ou la gauche, sur le milieu, je ne sais pas qui? Qu'est-ce qui va gagner ce soir? C'est ça? Bonne année? Je puis vous promettre que ce ne serait pas une bonne année. Et je ne suis pas mon prophète de malheur. Ce ne serait pas une bonne année. Je n'ai jamais vu une année qui était mieux que les autres. Il y a toujours des problèmes, des déceptions, des maladies, des choses difficiles. Mais le Seigneur est toujours là. Celui qui vous appelait fidèle, et c'est lui qui le fera. Lui, il ne change pas. Il ne change pas. Intéressant, mais j'ai lu une petite illustration d'un dominicain. Vous me permettez de citer un dominicain le dimanche matin. Un dominicain qui dit, je voudrais vous décrire le GPS de Dieu. Le GPS de Dieu. Et dit ceci. Sur la vie, dans la vie, sur le chemin de la vie, il y a mieux encore que cet instrument technique qui s'appelle le GPS. Quelque chose de beaucoup mieux, dit-il. Il dit ceci. Il y a le Saint-Esprit qui nous rend libres. C'est lui qui est notre GPS chrétien. Il nous rend libres en nous indiquant la direction. C'est ça qui est formidable. Il nous montre la direction, mais en même temps, il recalcule notre itinéraire quand on s'éloigne. C'est ça qui est formidable. J'ai vu ça plusieurs fois quand j'ai accompagné des amis qui avaient leur GPS. Presque tous se sont trompés à un moment donné, c'était par le GPS. Et on entend le GPS qui nous ramène au point de départ. Et peut-être cette année, pendant l'année, le Saint-Esprit va te prendre la main et te ramener au point de départ. Ce que tu as reçu du Seigneur cette semaine. Ce que tu as décidé avec le Seigneur, Dieu voulant. Et tu t'es éloigné. Revenons au point de départ. Et là, ce frère qui a décrit ça, il faut que tu introduises maintenant dans ton GPS la nouvelle adresse, le nouvel objectif que le Seigneur donne, et puis te laisser guider par le GPS qui vous donnera de connaître les promesses de la Bible qui éclairent notre cœur et notre intelligence pour qu'on devienne des serviteurs fidèles. Pourquoi est-ce qu'on s'est égaré du chemin en 2015? Malgré le fait qu'on a le GPS et le Saint-Esprit, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas voulu obéir aux instructions divines, parce qu'on s'est attaché à nos propres désirs, parce qu'on s'est attaché à notre propre interprétation des choses, sans dire à Jésus, « Seigneur, j'aime mon maître et je ne veux pas sortir libre. J'aime mon maître. » Et je ne veux pas sortir libre. Quelle place est-ce que Jésus a vraiment dans ma vie et dans la tienne? Nous avons écouté les promesses des gens politiques depuis quelques jours déjà, des promesses extraordinaires. Mais il y a un homme qui a fait une promesse en même temps, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu des élections présidentielles en Tanzanie. Et cet homme a fait des promesses. Il a dit que s'il gagnait, il allait se mettre avec le peuple pour que les choses changent. Et cet homme, dès les résultats annoncés en Tanzanie, à Dar es Salaam, il est allé dire au service, aux fonctionnaires, au service du fonctionnariat, « Je veux une place, mais mon président, vous en avez une, mais je veux une autre. Où est-ce que vous voulez cette place ?» Je veux pouvoir travailler dans un certain service pendant que je suis président. Mais quel service? Il a répondu, à partir de demain matin, je veux travailler dans le service des éboueurs. Il a dit ça cette semaine, un président. Et si le Seigneur nous demande de travailler dans le service des éboueurs, de nous mettre à genoux, de pleurer parce que les choses n'ont pas été comme elles auraient dû être, est-ce que le prix vaut la peine d'être payé? Est-ce que nous allons pouvoir dire avec cet homme de l'Ancien Testament, « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre. J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre. » Je n'ai pas de promesse à vous donner pour 2016. Il y aura beaucoup de partager. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse un instant, peut-être avec les yeux fermés, et de dire, « Seigneur, tu m'as donné tellement de promesses, tellement de bénédictions, et j'ai voulu sortir et voir les choses moi-même tout seul. Maintenant, Seigneur, je veux te dire, j'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre. » Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et prier cela au Seigneur? Seigneur, il y a bien des moments où je me suis égaré. Seigneur, des moments où j'ai ressenti la souffrance et je trouvais que ce n'était pas juste. Il y a des moments d'incompréhension. Mais Seigneur, je veux te remercier parce que tu n'as jamais fait faux bond. Tes promesses ont toujours été valables. Et Seigneur, je veux te dire, ce matin, le 13 décembre, j'aime mon maître. Je ne veux pas sortir libre. J'aime mon maître. Je ne veux pas sortir libre. j'aime mon maître. Je ne veux pas sentir libre. Seigneur, viens à notre secours. Ma vie, nos vies, nous voulons te servir, toi. Nous aimons notre maître. Tu nous as aimés le premier. Et nous voulons t'aimer en te servant pleinement pour ta gloire. Amen. J'ai laissé là-bas. Oh, voilà. C'est bien. Excusez-moi tout ça.
En notre nom à tous, je voudrais remercier tous ceux qui, ce matin, se sont mis à notre service pour célébrer ce culte ensemble. Vous remercier aussi pour votre esprit de service, vous remercier aussi pour les dons que le Seigneur vous donne et que vous mettez à notre service pour célébrer ce culte. Et tout particulièrement dans cette période de Noël, qui doit être une période de joie, c'est une bonne façon aussi de nous attacher au vrai sens de Noël et à la vraie joie que le Seigneur nous donne. Alors encore un très très grand merci. Merci aussi à Brian de nous rappeler à quel point au centre de notre foi et à la base de notre foi, c'est l'amour que le Seigneur a pour nous et l'amour que nous avons pour le Seigneur en retour. Tout le reste, notre obéissance, notre vie, prend un sens à partir du moment où c'est enraciné dans cet amour que le Seigneur manifeste envers nous et puis l'amour que nous lui portons en retour. Alors même si vous avez l'impression que vous aimez mal le Seigneur, je dirais, ça ne fait rien. Parce que votre cœur est là où il doit être, dans cet amour pour le Seigneur. Grandissez dans cet amour, aimez le Seigneur tous les jours davantage. Brian, nous serons en pensée avec toi dans les semaines et les mois qui viennent, alors que tu pars avec Hélène dans le sud. Nous t'accompagnons dans la prière et puis nous aurons beaucoup de joie à te retrouver à Pâques. Ça fait quelques mois d'ici là, mais en tous les cas, que le Seigneur vous accompagne. Je voudrais simplement attirer l'attention sur quelques événements de la semaine qui ne sont pas comme à l'accoutumée, simplement parce que nous avons des choses qui sont en préparation. Le Femme Club ne se réunira pas lundi, mais se réunira vendredi, parce que c'est autour du Femme Club et au Femme Club que les préparatifs se feront pour le goûter de notre fête de Noël samedi. Donc le Femme Club aura lieu vendredi à 14h, ici, donc pour utiliser les locaux et faire tous les préparatifs, dont c'est ici. Je voudrais simplement demander pour le groupe de jeunes adultes, on n'a pas un lieu, est-ce que le lieu est fixé? Ça sera à définir, donc vous communiquerez entre vous très très bien. Samedi matin, donc samedi à 17h, nous avons notre fête de Noël, mais dès samedi matin, nous avons besoin de forces vives, comme toutes les années, pour installer la salle Gaston Laverrière. Il y a démonter et installer la scène. Donc dès 8h30, et je précise bien, dès 8h30, il nous faudrait une bonne quinzaine de paires de muscles pour qu'on puisse, en une heure et demie de temps, mettre cette salle en place pour le restant de la journée. Donc, s'il vous plaît, que tous ceux qui se sentent l'âme de le faire, dès 8h30, soyons là pour que nous puissions faire cette salle. Venir un peu plus tard, c'est utile, mais c'est moins utile. D'accord ? Tandis qu'à 8h30, on se met en place, on met la salle en place, ça permet après de faire tous les autres préparatifs qu'il peut y avoir, et puis ensuite, on tombe ce boulot en une seule fois. Rebecca ? Oui, j'allais rajouter ça, très bien, mais tu fais bien de le rappeler. Il y a encore le tableau au fond, là où vous pouvez vous inscrire pour dire ce que vous allez apporter pour ce goûter. Donc s'il vous plaît, faites-le après le culte pour que Rebecca puisse savoir exactement ce qui nous attend. J'aimerais aussi vous rappeler que dimanche prochain, nous aurons un de ces cultes découvertes. Alors, il n'y aura pas le club d'enfants, mais ça sera quand même un culte qui veut être ouvert sur les personnes de l'extérieur et des personnes en particulier qui ne connaissent pas le Seigneur. On aura un message de Noël clair, limpide, beau, joyeux, autour du vrai sens de Noël. Alors n'hésitez pas à inviter encore vos amis. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas le club d'enfants ce dimanche-là qu'il n'y aura pas ce culte-là. Donc encore dimanche prochain, culte de Noël ouvert pour tous nos amis que nous connaissons. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il reste des calendriers sur la table au fond. Là aussi, c'est, comme disait Philippe la semaine dernière, c'est quand même le bon moment d'acheter ces calendriers et de les distribuer autour de soi. Je vais peut-être donner quelques nouvelles. Nous aurons dorénavant des nouvelles régulières de Floriane qui est au Kosovo. Ceux d'entre vous qui fréquentez le site de l'Église, vous trouverez cette feuille de nouvelles hebdomadaire sur le site, mais Rebecca aussi l'imprimera et le mettra au fond de la salle. Donc tous les dimanches, vous pourrez voir aussi des nouvelles toutes fraîches de Floriane. Je voudrais aussi vous rappeler qu'Anise a été réhospitalisée dernièrement, mais Philippe lui a rendu visite cette semaine. Et en dépit de problèmes, vous savez, de cicatrisation, d'infection, toujours ces bobos qui viennent, mais qui provoquent beaucoup de douleurs, Philippe a été encore frappé par cette bonne humeur et cette foi d'Anise qui voyait tout simplement dans la façon dont elle était soignée à l'hôpital de la Tour une bénédiction du Seigneur. Et là encore, quel témoignage d'une sœur qui nous montre que même au travers de ces difficultés constantes, chroniques, qui reviennent, et on se demande pourquoi, elle continue à dire « Tiens, c'est quand même bien, je suis quand même bien soignée. » Donc elle espère sortir cette semaine. Philippe était moins confiant, mais en tous les cas, on peut continuer à la porter dans la prière, puis porter dans la prière encore tous nos frères et sœurs qui, dans l'Église, sont affectés dans leur santé et où, quelquefois, ça, c'est vraiment quelque chose qui pèse. Je voudrais aussi, en dernier lieu, vous recommander de continuer à prier pour nos frères et sœurs dans le monde. Et là, cette semaine, c'est encore l'Afghanistan. Je ne vais pas vous donner les détails sur ce pays. Vous entendez suffisamment dans les nouvelles les difficultés. Mais de continuer à prier pour notre monde. Et j'aimerais que cette semaine, vous pensiez en particulier à notre pays et à notre monde, que le Seigneur, au début de l'année 2016, déverse encore sa grâce et sa bonté sur ce monde. Il en a tellement besoin. Dans les difficultés, mais aussi dans les résolutions qu'il prend. Et je ne sais pas si vous avez suivi les débats actuels qui ont eu lieu sur le climat pour les 50 ou les 100 prochaines années, mais où des décisions ont été prises et de belles décisions. Mais que le Seigneur arrose tout ça de sa bonté et de sa grâce. Et je vous invite vraiment à prier cette semaine pour un monde qui a besoin de la présence de notre Dieu. Et que le témoignage de l'Église autour de Noël puisse rayonner. Au-delà de tout ce qui est commercial, festif, folklore, pour que cette parole soit encore une bonne parole et une bonne nouvelle pour tout le monde. Si personne n'a autre chose à ajouter, Jean-Paul.
Oui, il y a quand même un grand, grand sujet de réjouissance cette semaine. C'est l'arrivée de...
C'est vrai.
Chez Jonathan.
C'est vrai, mardi.
Odélia.
Gloire à Dieu. C'est vrai.
Un accouchement long et difficile, mais ouais. Bon. C'est ce
elle est là. Voilà. Tout le monde avait beaucoup prié pendant de longs mois, si pas des années. Et elle est enfin arrivée, mardi, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc si vous pouvez même leur envoyer un petit mot, je suis sûr que ça leur fera très plaisir. Je vous invite à vous lever. Que la joie et l'espérance de Noël et du retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tous. Tout au long de cette semaine, mais que par vous, cette joie et cette espérance atteignent tous les hommes et soient une bénédiction pour toutes celles et tous ceux dont vous croiserez le chemin. Amen.